accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les chiffres, toujours les chiffres. Le nombre de migrants qui ont tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe a doublé entre 2013 et 2014. La plupart ont une obsession, rejoindre la Suède qui accorde l'asile à tous les Syriens ou le Royaume-Uni réputé plus généreux dans la délivrance du statut de réfugié. Débarqués sur les côtes sud du continent, ils sont des centaines à tenter de monter à bord du train Milan-Paris, l'Euronight 220 qui part tous les soirs à 23h05. Un voyage à haut risque car les polices italiennes, suisses et françaises se relaient pour renvoyer en Italie tous les migrants qui se sont d'abord enregistrés dans ce pays, comme le veut la Convention de Dublin. Katia Beach est allée à Milan pour monter à bord de ce train, mal nommé le train de l'espoir.
Il treno Regio Express di Trenord delle ore 19:20 per Tirano è in partenza dal binario 6.
Dans le hall de la gare, la ville de Milan a aménagé un espace d'accueil d'urgence pour les centaines de réfugiés en transit. Deux tables pour organiser la distribution d'eau et de sandwichs et quelques jouets pour les enfants. Ils sont environ 200 assis sur le sol en marbre. Une journée calme, expliquent les bénévoles. Quelquefois, on compte près d'un millier de réfugiés ici. Des Syriens ou des Palestiniens principalement. Des traces de sel collent encore à la peau de certains, souvenirs de leur voyage en mer. Mona, Aram et leurs deux enfants arrivent de Gaza.
On est venu par l'Égypte. C'était horrible, horrible. 9 jours en mer. On veut aller en Suède maintenant, on espère prendre un train. Mais on n'a plus d'argent, on a dû tout donner aux passeurs. On n'a plus rien du tout, même pas de vêtements.
Nous n'en saurons pas plus. Un agent de la police italienne me demande de couper l'enregistrement. Grâce à l'intervention de Katrina Serfati, chargée des relations internationales à la mairie de Milan, je suis autorisée finalement à poursuivre mes interviews, mais dans un périmètre restreint et sous surveillance. La question des migrants est délicate, comme le confirme Katrina Serfati.
Bah oui, bien sûr, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plein d'institutions qui sont impliquées. Il y a le gouvernement qui est impliqué, il y a des organisations de la société civile qui sont impliquées. Probablement, les difficultés sont aussi par rapport au fait que c'est la première fois qu'une administration locale décide de gérer le flux migratoire qui arrive à Milan, parce que c'est une situation plutôt particulière, c'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent de Lampedusa et de là-dessus de l'Italie et qui veulent partir vers le nord d'Europe. Et donc c'est vraiment un flux migratoire transitoire. Et c'est pour ça que c'est si particulier et c'est pour ça qu'on a besoin d'un appui dans la gare.
Ces 6 derniers mois, 30 000 réfugiés ont transité par la gare de Milan. Tous candidats au départ, comme Mahmoud, un Syrien de 26 ans.
Je viens de la Syrie et pour traverser, je suis passé par la Libye. Là-bas, c'est très dur. Il y a beaucoup d'agressions. Ils te prennent tout ce que tu as, l'argent, le portable, le passeport, tout. Ils agressent même les familles, les femmes avec les enfants.
Mahmoud ne cache pas sa colère. Les centres d'hébergement de Milan sont bondés. Depuis 2 semaines, il dort sur un morceau de carton, à même le sol de la gare.
Dans les camps, il y a trop de monde. On ne peut pas dormir. C'est mieux d'être ici à la gare en attendant. Je veux partir au Danemark parce que les Italiens disent qu'il n'y a pas de travail ici. Ou en Suède. En France, ils ont tout verrouillé. Ils n'ont laissé aucune chance pour nous.
Le manque d'argent n'est pas le seul problème pour poursuivre le voyage. Comme le prévoit la Convention de Dublin, un réfugié sera reconduit dans le premier pays par lequel il est arrivé. Youssef, un Syrien de 21 ans, le sait. Il a tenté 2 fois de prendre l'Euronight 220, le train de nuit vers Paris. Un aller suivi d'un retour au point de départ.
J'ai pris le train à 23h à Milan et à 4h du matin, à la frontière entre la Suisse et la France, la police est venue me chercher. Ils m'ont envoyé ici, en Italie. Moi, je veux aller en Belgique. Mais comment je peux faire pour traverser la France? Maintenant, je n'ai plus d'argent. J'ai déjà dépensé 200 euros pour les billets.
22h55, l'Euronight 220, rebaptisé le train de l'espoir, entre en gare. Un contrôleur devant chaque voiture, les voyageurs sont comptés, les billets contrôlés.
Bonjour.
La 88, la 87, la
80
qui s'est ouverte, c'est une coulée. Oui. Ah, bien,
Il y a des gens qui montent par là.
Quelques minutes après le départ, les contrôleurs ramassent tous les passeports pour faciliter le travail de la police.
Tu as ramassé tous tes passeports ?
Pas encore.
Premier arrêt à Domodossola. La Guardia, la police italienne, monte dans le train, accompagnée de chiens. L'inspection va durer une demi-heure.
Domodossola.
Bagaglio non c'è problema.
Prochain arrêt, Brigue, en Suisse. La police italienne passe le relais aux gardes frontières helvétiques.
En 83, 84,
je sais pas. Allez voir, regardez, mais si vous avez quelque chose, bah vous venez.
Chaque passeport est contrôlé à la loupe et au lecteur électronique. Les gardes frontières ne sont pas autorisés à répondre aux médias. Le sujet est sensible, les contrôleurs du train, eux non plus, n'ont pas le droit de parler. L'un d'eux, sous couvert de l'anonymat, nous confie tout de même son malaise parfois.
On contrôle nos billets et on prend les pièces d'identité. Et ceux qui ne donnent pas la pièce d'identité, on nous marque sur notre papier et après il y a la police qui font leur travail. Donc on est là pour travailler, voilà, pour travailler uniquement. Donc bah, on met nos sentiments de côté parce que c'est pas une solution. Donc on est là, on est engagé pour faire certaines tâches, il faut les respecter. Mais c'est vrai que on voit que les gens ils sont mal et tout, mais on essaie de leur expliquer le maximum pour ne pas se mettre dans des situations encore plus difficiles. Moi personnellement, je leur dis voilà, vous avez le billet, d'accord, mais sachez que on a des contrôles. Alors ils le savent. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas moyen justement de passer dans les mailles des filets.
À Valorbe, 4h30 du matin, 6 agents de la PAF, la police aux frontières françaises, poursuivent le travail. La collaboration internationale a semble-t-il bien fonctionné. 6 migrants sont réveillés, fouillés et débarqués. Pour ces 3 Maliens, un Libyen et 2 Syriens, le voyage se termine à Frasnes, en France, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Dans moins de 48 heures, ils seront tous de retour en Italie. La police le confirme, grâce au contrôle, les migrants sont de moins en moins nombreux à prendre le train de l'espoir.
Peut-il y avoir une alternative aux cours de religion dans les écoles polonaises? La réponse est oui. Les parents, tout comme les élèves, peuvent désormais choisir l'option cours d'éthique. Mais la pression est forte pour les décourager. L'Église estime qu'il s'agit là d'une guerre déclarée contre le catéchisme. En ce début de rentrée scolaire, le débat agite à nouveau les salles de classe. Reportage à Varsovie de Maya Szymanowska.
La cloche marque la fin du cours d'éthique dans ce collège du centre de Varsovie. Ces cours qui mélangent des rudiments de philosophie et d'éducation civique sont une alternative aux cours de religion obligatoires depuis 1992 en Pologne. Mais seuls 4% d'enfants les suivent. Explication d'Agnieszka Świtalska, professeure d'éthique.
C'est l'échec de notre système éducatif. Il n'y a pas d'action de sensibilisation des parents pour leur montrer que nous ne voulons pas combattre la religion. On ne boycotte aucune confession, on apprend juste aux enfants la pensée critique. On essaie de leur apprendre à raisonner librement, en dehors des stéréotypes, d'une manière logique et autonome.
Les offres sont rares, mais de plus en plus de parents réclament ces cours, comme Bojena Pszczółowska, maman de 2 garçons de 12 et de 14 ans.
Je pense que l'éthique a plus de place à l'école que la religion.
Pour Bojena Pszczółowska, c'est une évidence. Mais dans un pays catholique à plus de 90%, la laïcité est loin d'être une évidence. C'est plutôt un combat.
Au collège, j'étais la seule à revenir à la charge pour que ces cours d'éthique soient mis en place. J'étais très engagée, mais la politique de la direction a été de programmer les cours d'éthique de telle façon que les enfants eux-mêmes ne veulent pas y assister. Par exemple, très tard le soir, avec interdiction de quitter l'école dans la journée. Les enfants ont préféré abandonner plutôt que d'attendre plusieurs heures le cours en question. De cette manière, tous les ans, le sujet de l'éthique revient mais meurt de sa belle mort.
L'organisation de ces cours est laissée à la discrétion des directeurs d'école. Et ceux-ci ne coopèrent pas toujours avec les parents sur ce sujet de peur de se mettre l'église à dos. Une église très présente dans les écoles publiques. L'année scolaire débute par une messe dans la plupart des établissements. On trouve des crucifix dans presque toutes les classes. L'organisation des cours d'éthique se heurte aux nombreuses réticences. Andrzej Wędrychowicz a fondé un site internet d'information sur ses cours et de soutien aux enseignants et aux parents. Il reçoit tous les jours des coups de fil. Il a été contacté par Bojena.
Nous donnons aux parents des conseils pour obtenir des cours d'éthique, pour les arracher littéralement, car la plupart des directeurs d'école ne sont pas favorables à ces cours, parce que l'Église catholique en Pologne a décidé que les cours d'éthique étaient contraires aux cours de catéchèse. Jusqu'ici, quand les enfants choisissaient les cours d'éthique, ils ne pouvaient plus aller en cours de religion. Alors l'éthique a été présentée par l'Église comme anti-catholique, contestataire, anti-religieuse.
Cependant, les choses commencent à bouger. La loi vient heureusement de changer cette année. Le quota de 7 enfants par classe désireux de suivre les cours d'éthique n'est plus demandé. Les cours peuvent être organisés même pour un seul enfant et les élèves pourront désormais suivre les cours de religion et d'éthique sans devoir choisir entre les deux, ce qui vise à annuler la concurrence entre ces deux disciplines. Même avant le changement de la loi, Bojena Pszczółska ne s'est pas avouée vaincue et au bout de 2 ans, elle a obtenu gain de cause. D'après elle, les Polonais ne sont pas si religieux que cela. Ils sont surtout très conformistes et ont peur de sortir du rang, un héritage de l'époque de la dictature communiste.
Quand on a brisé cette armure de conformisme et de paresse intellectuelle, on se rend compte, 6 ans après l'introduction des cours d'éthique, que la plupart des enfants du primaire suivent ces cours plutôt que ceux de religion.
Andrzej Wędrychowicz, militant de la cause, le confirme.
Les parents nous demandent ce qu'il faut faire. Nous, on leur répond. Manifestez-vous à l'école, exprimez votre souhait et surtout, accrochez-vous. Et à chaque fois que ces parents ont suivi notre conseil, partout où cela a été fait, où un parent a demandé que les cours d'éthique existent, d'autres parents les ont suivis. Un seul exemple entraîne des miracles. C'est comme un virus.
Et ce virus de la pensée critique semble se répandre en Pologne. Le nombre d'écoles qui ont mis en place des cours d'éthique a doublé en 1 an. Et d'après les données de l'Église catholique elle-même, seuls 40% des jeunes se disent pratiquants, une chute de 20% en 10 ans.
De l'art et la manière de faire de la politique en Europe avec des petits mensonges, de grosses omissions ou une pure mauvaise foi. Récemment, la vie politique française a encore été agitée par des faussaires. Thomas Thévenoud, ex-secrétaire d'État au commerce extérieur et ses phobies fiscales, ou encore Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste et ses drôles de diplômes. Et en Europe, comment les politiques s'arrangent-ils avec la vérité? Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
On a commencé à le voir, il y a bien 1001 manières de tromper les lecteurs.
Ah, vous auriez pu aussi ajouter les mensonges rétroactifs, Frédéric. Nicolas Sarkozy, lors de son interview télévisée dimanche, a accusé François Hollande d'avoir menti pour promesses électorales non tenues. L'anaphore « moi président » d'Hollande était selon lui une litanie de mensonges, ce qui est bon, pour le moins excessif. Dans le même temps, l'ex-président sortant a expliqué sans sourciller qu'il ne pouvait pas mentir, étant l'homme le plus exposé de France. Alors coller l'étiquette « menteur » sur un chef d'État n'est, il est vrai, pas nouveau. Les guignols de l'info avaient en son temps surnommé Jacques Chirac « super menteur ». Par ailleurs, quand Jean-Christophe Cambadélis, chef du parti au pouvoir, est accusé d'avoir obtenu sa maîtrise sans avoir préalablement obtenu sa licence, cela fait tâche. Il aurait, dit-il, bénéficié d'une dérogation, mais qu'en penseront les étudiants qui se voient refuser une inscription en troisième cycle alors qu'eux ont le bon diplôme? Mais il y a des mensonges beaucoup plus graves. Celui de Jérôme Cahuzac, qui jure à l'Assemblée n'avoir pas de compte en Suisse, restera bien sûr dans les annales de l'histoire du mensonge. La phobie administrative de Thomas Thévenoud pour justifier son mensonge fiscal va elle aussi rester un certain temps dans les mémoires.
Daniel, le président français François Hollande a voulu moraliser la vie politique, mais peut-on légiférer contre le mensonge ?
Oui, preuve en est que si l'allergie fiscale de Thévenoud a été révélée quelques jours après sa nomination comme secrétaire d'État au commerce extérieur, c'est bien parce que le contrôle fiscal des entrants au gouvernement est désormais automatique. Mais évidemment, on ne pourra jamais empêcher personne de mentir en politique comme ailleurs.
Et dites-nous, quel est le pays d'Europe où le mensonge en politique est une faute impardonnable ?
C'est sans nul doute le Royaume-Uni où le simple fait de cacher la vérité implique une condamnation sans appel. L'ex-ministre britannique de l'Environnement, Chris Huhne, a ainsi été contraint à la démission et a passé 8 mois en prison pour avoir menti à la justice. Il avait pourtant seulement dit que son épouse conduisait sa voiture pour ne pas perdre 3 points de son permis à la suite d'un excès de vitesse. Le scandale des notes de frais abusives des députés britanniques a également été sévèrement sanctionné. Souvenez-vous, de 2009 à 2011, plusieurs députés et des ministres ont été condamnés à des amendes et même à des peines de prison pour s'être fait rembourser des frais indus. Depuis, les notes de frais de députés sont rendues publiques dans le cadre d'une déclaration d'intérêt, mais cela n'a pas suffi. En avril dernier encore, la ministre de la Culture, Maria Miller, a démissionné pour s'être fait rembourser les traites d'un crédit immobilier.
Et en Allemagne, on ne badine pas non plus avec les mensonges.
Effectivement, outre-Rhin, de simples accusations de plagiat portées à l'encontre du ministre de la Défense allemand, Karl Theodor zu Guttenberg, ont finalement contraint Angela Merkel à accepter en 2011 sa démission. Plus des deux tiers de sa thèse de doctorat, délivrée par l'université de Bayreuth, était empruntée à d'autres auteurs. Après avoir tenté de nier, le ministre s'est excusé auprès des personnes plagiées et son titre de docteur en droit lui a été retiré pour faute grave. La chancelière allemande ne pouvait dès lors pas garder un ministre dont l'autorité morale était sujette à caution dans un pays où l'on part du principe que si le ministre était capable de mentir pour obtenir un doctorat, sa parole pouvait être systématiquement mise en doute.
Et à l'inverse, Daniel, il y a bien un pays où on se montre un peu plus arrangeant avec les mensonges.
Je ne vais sans doute pas vous surprendre, Frédéric, en vous disant que c'est l'Italie, pays où le champion des mensonges n'est pas n'importe qui, puisque c'est Silvio Berlusconi, l'ex-chef du gouvernement. Quand il est pris en flagrant délit de mensonge, c'est simple, il nie tout. C'est un réflexe conditionné, nier, ne jamais avouer, en usant jusqu'à la corde de son pouvoir. Tous les moyens étaient bons pour Silvio Berlusconi, faire promulguer une loi sur mesure le mettant à l'abri de toute poursuite judiciaire, ou encore faire voter par les députés des motions de dessaisissement des tribunaux. Mais le cavaliere a enfin été rattrapé par la justice. Il a été condamné en mai dernier pour fraude fiscale à des travaux d'intérêt général et se rend chaque semaine dans une maison pour personnes souffrant d'Alzheimer. Et il n'en a pas fini avec la justice, avec un procès en cours à Naples pour corruption de sénateurs. L'enquête pour corruption de témoins dans l'affaire Rubiguette n'est également pas close.
Merci Daniel Vigneron, on vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
On vous embarque à Prague pour terminer cette émission à bord du tram 22, sans doute le meilleur moyen de découvrir toutes les facettes de la capitale tchèque et plus authentique que n'importe quel circuit touristique. À Prague, Alexis Rosenzweig.
D'un quartier périphérique composé de barres d'immeubles typiques de l'architecture communiste à l'ancien champ de bataille de la Montagne Blanche, ce tram 22 offre aux passagers un voyage dans l'espace et dans le temps, pas toujours dans l'ordre chronologique. À mi-parcours de cette ligne, juste avant de franchir la rivière Vltava, se trouve notamment la station Narodnitschida, l'avenue nationale, qui est depuis un quart de siècle liée à la révolution de velours et à la répression brutale des étudiants par la police du régime communiste qui allait s'effondrer quelques semaines plus tard. Le tram 22 n'est pas seulement le moyen de découvrir l'histoire récente et ancienne de Prague. Une fois passé la place de la paix, puis la station qui porte le nom de Jan Masaryk, le ministre défenestré pendant le coup de Prague, la descente vers le quartier de Wachowice est amorcée et on découvre alors le nouveau coin tendance de la capitale avec l'arrêt de la rue Krimska, devenue ces dernières années la rue des bars les plus prisés de la ville. Selon la station à laquelle on monte dans un des deux wagons, les passagers du tram ont un profil sensiblement différent. D'abord des banlieusards qui ont souvent laissé leur voiture au terminus pour aller travailler dans le centre, puis des élèves et étudiants qui vont en cours et enfin des touristes qui deviennent la majorité à mesure qu'on approche de la station du château de Prague sur les hauteurs de la ville. Le soir, les fêtards se font plus nombreux avec en cas de match les supporters des Bohemians ou du Slavia, deux clubs de foot dont les stades sont sur la ligne. Le 22 est en service dès 5h du matin et jusqu'à minuit et cette visite guidée en continu avec chauffeur ne coûte qu'un tout petit peu plus d'un euro. Attention quand même aux pickpockets, surtout près des stations touristiques.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. À demain.